Voici Anne-Laure Chouin pour le journal. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. On reviendra sur le débat qui opposait hier soir la tête de liste Renaissance aux européennes, Valérie Ayer, à la tête de liste du Rassemblement National, Jordan Bardella. Un débat de vision, nous dira Rosalie Lafarge.
L'extrême droite qui tente de plus en plus les jeunes allemands, nous dira Sébastien Baer.
Et puis à Lyon, la fin de la subvention au musée d'architecture Tony Garnier, sur décision de Laurent Wauquiez, pourrait mettre l'institution en péril. Après ce journal, votre question du jour, Marguerite Caton.
Nous parlerons de la Commission européenne. Quel bilan pour Ursula von der Leyen ?
Réponse à 7h15. À Renaissance, une campagne sans dynamique. Au RN, des sondages qui laissent espérer une victoire. Le débat d'hier soir aura-t-il permis de changer la donne ? C'est encore à voir. Hier, en effet, pour la première fois depuis le début de la campagne européenne, la candidate du parti présidentiel, Valérie Ayer, affrontait en débat télévisé le candidat de l'extrême droite, Jordan Bardella. 2h15 d'échange sur BFM TV, au cours duquel presque tous les sujets européens ont été abordés. Immigration, agriculture, guerre en Ukraine et un affrontement quasi permanent entre deux projets, mais surtout deux volontés. L'analyse de Rosalie Lafarge.
L'un est venu parler du pays.
La France fait face aujourd'hui à un ensauvagement de le peuple français. La France d'Emmanuel Macron. Les intérêts français, c'est permettre à la France.
Je regarde quel est l'intérêt du peuple français. Pardon, hein.
L'autre d'un continent et d'une alliance.
D'abord, je suis profondément européenne.
Moi, j'ai agi au Parlement européen pour l'avenir de l'Union européenne.
L'Ukraine a un destin européen, c'est une évidence.
Deux projets bien distincts, deux lignes qui ont du mal à se croiser sans s'attaquer. Valérie Ayer accuse son rival de duplicité.
Vous avez mille facettes, monsieur Bardella, mais à la fin, un seul visage, celui d'un imposteur.
Jordan Bardella la soupçonne de nier la réalité.
Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un éléphant dans le salon et que vous êtes la seule à ne pas le voir.
Il se coupe, se tacle, se cherche sur chaque sujet ou presque, et particulièrement celui de l'immigration.
Alors, moi, le message, il sera très simple. Ne venez pas en Europe. Parce que si vous venez en Europe, chez moi, dans ma maison, sans y avoir été invité, d'une part, vous serez raccompagné dans votre pays de départ par les autorités européennes. Deuxièmement, si vous arrivez sur le sol français, vous n'aurez droit à rien.
C'est en décidant, vous, tout seul, que vous allez renvoyer les migrants qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire européen. Bien sûr qu'il nous faut une réponse européenne, coordonnée.
Il l'accuse de faire joujou avec la guerre en Ukraine. Elle le met face au racisme et à l'homophobie de ses alliés européens. Il assure que la campagne macroniste est en partie financée par des grands groupes américains. Elle pointe son absentéisme au Parlement dans lequel il est élu depuis 5 ans. Véritable match, Jordan Bardella en attaque, Valérie Ayer en défense, avec le sentiment que si la tête de liste du camp présidentiel espère sortir la tête haute du scrutin du 9 juin, son adversaire, lui, voit déjà bien plus loin.
Ce qui est sûr, c'est que la montée déjà bien entamée de l'extrême droite est un sujet européen en soi. On en parle ce matin, comme tous les premiers vendredis du mois, jusqu'au 9 juin, avec une journée spéciale consacrée à l'Allemagne, qui, comme chez la plupart de ses voisins, est confrontée à une poussée du vote nationaliste chez ses jeunes électeurs, car les Allemands vont pouvoir voter à partir de 16 ans. Et pour les partis en lice, ils représentent un potentiel de voix non négligeable. Traditionnellement, c'est plutôt le parti vert qui fait le plein de ces scrutins des jeunes, mais cette année les choses risquent d'être différentes avec la campagne très incisive de l'extrême droite, l'AFD, dans leur direction. C'est un reportage depuis Berlin de notre correspondant Sébastien Baer.
C'était il y a quelques jours lors de la présentation de la campagne des Verts pour les européennes. 13 minutes après le début de sa conférence de presse, Thierry Reinke, la tête de liste, fait une pause. Elle s'approche du téléphone portable que brandit un technicien pour s'adresser directement aux jeunes sur TikTok.
Nous sommes à 55 jours des élections européennes et notre slogan est « Faire ce qui compte, pour toi et pour vous ». Alors qu'est-ce que vous en dites ? Vous avez envie ? Vous êtes partant ?
Les Verts, premiers chez les moins de 30 ans lors des européennes 2019, ne sont plus que troisième cette année. Depuis l'arrivée des écologistes au gouvernement fin 2021, de nombreux jeunes se sont détournés du parti, comme Daria, une berlinoise de 26 ans.
Les Verts ont bien sûr fait de la protection du climat leur cheval de bataille, mais ils n'agissent pas suffisamment. J'ai envie de dire aux Verts, si vous voulez être le parti de la protection du climat, imposez-vous davantage et ne faites pas de compromis. C'est toujours la même chose quand les partis arrivent dans un gouvernement.
Le parti qui en profite, c'est l'extrême droite. Sur les réseaux sociaux, l'AFD mène une campagne agressive pour séduire les jeunes. Les vidéos qui évoquent tous les sujets font 10 fois plus de vues que celles des autres partis. parti. Finn Schlicker est le responsable des Jeunes Verts dans la région de Sarre.
L'inflation, les loyers chers, les crises, la guerre, ce sont les thèmes qui relèguent au second plan l'écologie. Beaucoup de jeunes ont peur de l'avenir et cherchent un peu de sécurité. Et c'est justement là que les populistes débarquent avec leurs solutions simples et qui peuvent séduire. Malheureusement, il faut dire que de nombreux partis ont perdu le contact avec les jeunes électeurs.
L'AfD est désormais le parti numéro 1 chez les jeunes Allemands. 22% des moins de 30 ans ont l'intention de voter pour l'extrême droite. Ils étaient seulement 9% en 2022.
Et on continue cette journée spéciale Être européen en Allemagne tout au long des matins de culture dans nos journaux et avec vos invités, Guillaume. Retour en France en attendant à Lyon, plus précisément, où la politique culturelle du président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, fait des remous avec cette dernière décision notamment, la baisse des subventions régionales allouées au musée d'architecture Tony Garnier, situé dans le 8e arrondissement de la capitale des Gaules. Si l'annonce se confirme, il perdra 20% de son budget. Pour la gauche, le président Les Républicains de la 2e région de France impose une politique culturelle qui sert surtout à servir ses ambitions présidentielles. La question doit justement être abordée aujourd'hui au Conseil régional à l'occasion d'une commission culture à Lyon. Le récit de Mathilde Imberti.
Cécile Capel espère un revirement, mais jusqu'ici, c'est bien la suppression totale de la subvention de la région que la commission culture s'apprête à entériner pour le musée urbain Tony Garnier qu'elle dirige, pas moins de 35 000 euros.
Ça représente en fait 20% de notre budget annuel, donc l'équivalent de un poste salarié sur les trois. Même à terme, c'est la fermeture du musée, étant donné qu'on ne peut pas fonctionner à moins de trois salariés.
Pour l'opposante numéro 1, Najat Vallaud-Belkacem, présidente du groupe socialiste à la région, Laurent Wauquiez prépare sa campagne présidentielle.
Cette propension qu'il a à ne vouloir financer en matière culturelle que des choses qu'il pourra estampiller Laurent Wauquiez tout seul. Et ne soyez pas surpris de voir en 2027 fleurir comme cela les inaugurations qui lui permettront de se raconter en financeur de la culture, là où il aura assez clairement détruit la culture sur ce territoire.
Le budget culture de la région ne baisse pas, se défend la vice-présidente en charge de cette politique, Sophie Rotkopf, soit 77 millions d'euros retirés à certaines structure, c'est choisir un rééquilibrage territorial, selon l'élu.
Nous avons un budget de la culture sanctuarisé à la région, mais ça ne veut pas dire que les subventions, elles, le sont. Les subventions ne sont pas automatiques. Moi, je les ai, depuis un an, prévenus que nous allions nous retirer, parce que c'est un musée très local et qu'il nous semblait de la responsabilité de la ville de Lyon.
La ville de Lyon, dirigée par les écologistes, assure qu'elle ne laissera pas tomber le musée Tony Garnier, mais peste, on ne peut pas compenser éternellement le retrait de la région en matière culturelle.
L'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, a été suspendu par Radio France dans l'attente d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Guillaume Meurice l'a annoncé lui-même hier. Cette suspension intervient après des propos polémiques tenus fin octobre sur Benjamin Netanyahou. L'humoriste avait écopé d'un avertissement de sa direction qu'il conteste devant les prud'hommes. La justice, en revanche, l'avait blanchi.
7h08 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Le conflit entre Israël et le Hamas au Proche-Orient continue donc d'enflammer les débats en France. À Gaza, la vie est toujours impossible.
Oui, dans un contexte où la trêve tant attendue se précise mais n'est toujours pas actée. Hier, le Hamas disait étudier dans un esprit positif la dernière offre d'Israël associée à la libération d'otages. Et puis à Rafah, Israël continue de bombarder selon les sources médicales sur place. Focus dans ce journal sur une minorité religieuse qui cherche par tous les moyens à fuir l'enclave où ils étaient un petit millier avant le 7 octobre, les chrétiens. Le patriarche latin de Jérusalem met en garde pour la première fois depuis l'avènement du christianisme. Il y a un vrai risque que les chrétiens disparaissent de ce territoire. Le reportage depuis Jérusalem de Thibault Lefèvre.
Les derniers chrétiens de l'enclave se sont pratiquement tous réfugiés dans deux églises, dans la ville de Gaza.
J'ai vécu comme le peuple et j'ai partagé ce qu'ils subissaient.
Et si sœur Nabila parle au passé, c'est qu'elle est partie il y a quelques semaines comme 300 autres fidèles, car depuis le 7 octobre, 32 sont morts, dont 20 dans des bombardements ou des échanges de tirs, les autres par manque de soins.
J'ai un problème au foie et j'ai vu beaucoup de souffrance. C'est très difficile d'abandonner ma mission à Gaza et puis de voir le pays détruit. Tout est détruit à Gaza.
Selon le patriarcat latin, il devrait être encore 300 de plus à payer des sommes exorbitantes pour quitter l'enclave dans les prochaines semaines.
Ça pourrait signer la fin du christianisme à Gaza.
Marie-Armelle Beaulieu est rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine.
Les églises n'organisent pas aujourd'hui la sortie. Si on renonce, c'est-à-dire si on facilite les départs, on entérine l'effacement d'une communauté bimillénaire. Les chrétiens ne sont pas des invités ici. Le christianisme est né ici.
Israël a proposé aux chrétiens de Gaza un plan d'évacuation. Les autorités cléricales ont refusé pour ne pas abandonner une terre occupée donc par les églises depuis près de 2000 ans.
Thibault Lefèvre, en Turquie qui vient de rompre tous ses liens commerciaux avec Israël, le gouvernement doit annoncer aujourd'hui le chiffre de l'inflation annuelle qui tutoie les sommets depuis des mois. L'inflation était officiellement de 65% l'an dernier, deux fois plus selon les économistes indépendants. Elle ne devrait pas connaître de répit pour cette année. Une inflation qui touche en particulier l'alimentation, mais aussi les médicaments. C'est un reportage de notre correspondante à Istanbul, Marie-Pierre Véraud.
Nourten, 84 ans, n'en peut plus.
Ça fait 10 ans que je m'occupe de mon mari, malade et grabataire. Et si vous saviez combien cela me coûte, le gouvernement donne seulement le prix d'une couche culotte. Comment voulez-vous que je m'en sorte avec ça? Les couches culottes sont importées d'Europe. La pommade aussi.
Dans le domaine pharmaceutique, comme dans tant d'autres, la Turquie dépend des importations. Il y a eu ces derniers mois des pénuries d'antibiotiques, de sirops pour la toux, de médicaments soignant le cancer, et la chute de la livre pèse. Le taux de change irréaliste proposé aux laboratoires étrangers par le gouvernement a conduit nombre d'entre eux à se retirer du marché turc. Nuray Kozonoglu tient une pharmacie dans le centre. Elle jongle avec les génériques. C'est inscrite sur une boucle WhatsApp de 300 pharmaciens qui s'entraident en cas de pénurie. Mais cela ne suffit pas.
L'inflation touche bien sûr les médicaments. L'État en rembourse une partie, mais pour certains, le reste à charge est très important. Car le gouvernement ne rembourse que les médicaments qui ne coûtent pas cher. Les antidépresseurs, par exemple, restent à un prix exorbitant.
Or, leur consommation a explosé avec la crise. Alors, sous sa caisse, Nuray en a une autre et paye de sa poche les médicaments des plus nécessiteux. La société tient encore grâce à cette solidarité.
Marie-Pierre Véraud. Enfin, c'est l'un des poissons les plus consommés en France et en Europe. Le saumon, élevé de façon industrielle, dans des conditions pas toujours très reluisantes. Mais il rapporte beaucoup, à la Norvège notamment. Plus d'un million de tonnes de saumon norvégien ont été exportées en 2023 pour plus de 10 milliards d'euros. Et pourtant, ces élevages intensifs connaissent une mortalité très importante. 63 millions de saumons sont morts prématurément l'an dernier dans les fermes piscicoles des fjords scandinaves. Pour quelles raisons? Les explications de Talita Thiraud.
Première cause, l'élevage industriel. Élevés dans de grandes cages, ces poissons sont plus enclins aux maladies, du pancréas, des branchies ou même du cœur. Ils peuvent être aussi infectés par des poux de mer, des parasites qui se nourrissent de la peau et du sang du saumon. Mais selon Marc Ventput, responsable filière piscicole à l'Institut national de la recherche agronomique, traiter les poux de mer peut également fragiliser les saumons.
C'est une espèce de douche haute pression. Quand on fait ça, on peut blesser les poissons. Parce qu'il faut les pêcher, les passer dans le système et faire qu'ils vont attraper plus facilement d'autres maladies infectieuses.
À cela s'ajoute la surpopulation dans les élevages. Une cage marine contient environ 200 000 saumons, sachant qu'une ferme comprend 8 à 16 cages.
S'il y a des pathogènes qui arrivent, ils vont avoir plus facilement tendance à se multiplier dans ces zones-là. Et en particulier, plus on met de saumons dans un endroit, plus on a de risques d'avoir des poux de mer. Et s'il y a plus d'un pou de mer tous les deux poissons, ils sont obligés de traiter.
En Europe, aucune réglementation ne limite le nombre de saumons par cage. Frais ou fumé, le saumon provient à 98% des élevages. Gauthier Ribrol, chargé d'études en bien-être animal à l'ONG Wellfarm, craint que ces élevages intensifs se développent en France.
On a 3 projets d'élevage de saumon auxquels nous on s'oppose. Notre message, c'est plutôt de réduire la production et la consommation de saumon en général, au lieu d'augmenter la production, que ce soit en France ou ailleurs.
99% du saumon consommé en France est importé.
Le temps de ce vendredi, nuageux partout excepté au sud, des averses au fur et à mesure de la journée, comptez ce matin de 5 à 12 degrés, de 12 à 16 cet après-midi. Dans un instant, la question du jour de Marguerite Caton, une question européenne. Quel bilan pour Ursula von der Leyen ?